Oui, donc toujours Agnès de Cornulier, toujours la Quadrature. Le règlement Internet ouvert, l'article 3, est rédigé de la façon suivante. Les utilisateurs finaux ont le droit d'accéder aux informations, aux contenus et les diffuser, d'utiliser, de fournir les applications et les services, et d'utiliser les équipements terminaux de leur choix. Et du coup, je me demande pourquoi vous avez besoin de clarifier ça enfin, vous demandez aux législateurs de clarifier cela, parce que ça me paraît assez clair. Et depuis le début, en fait, nous, on a ce point de vue, et on n'a jamais eu de... Enfin voilà, à chaque fois, vous vous dites que c'est pas si clair, et on n'a jamais eu de réponse très très claire de votre part. Donc voilà.
Bah, nous, la manière dont on comprend cette phrase, c'est que un utilisateur peut accéder à n'importe quel contenu, contenu, application, service, bon, quel que soit... C'est que un fournisseur d'accès Internet, pardon, doit fournir un Internet, en gros, qui soit compatible avec tous les terminaux. Donc nous, on le comprend dans ce sens-là. La preuve, c'est que le règlement sur l'Internet ouvert, il ne crée d'obligation légale qu'aux opérateurs télécoms. Le champ d'application du règlement, tous les outils qui sont dans la main du régulateur, concerne les opérateurs de communication électronique. Une décision juridique extrêmement claire. Donc aujourd'hui, nos pouvoirs de recueil d'informations, nos pouvoirs, les obligations qu'on peut imposer aux opérateurs, le pouvoir de sanction qu'on a, il a un périmètre extrêmement clair. Ce sont les opérateurs télécoms. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité, au titre du règlement européen, d'imposer quoi que ce soit à Apple, Android, Samsung ou qui vous voulez. Nous n'avons aucun pouvoir sur les acteurs des terminaux. La seule limite, c'est ce qu'on appelle le point de terminaison du réseau, qui, par extension, fait partie de... Enfin, pas par extension, mais qui est le périmètre, en gros, jusqu'où peut aller le pouvoir des régulateurs télécoms. Mais ce point de terminaison des réseaux, aujourd'hui, il est clair qu'un smartphone n'est pas un point de terminaison du réseau. Donc, il y a des débats sur le fixe pour savoir où est le point de terminaison du réseau, mais dans le domaine mobile, il n'y a aucun débat. Donc aujourd'hui, nous n'avons... Quand bien même on pourrait avoir une lecture très constructive, quand bien même on pourrait avoir une lecture positive de cet article comme vous le faites, de toute manière, on n'a aucun outil qui nous permettrait de lui donner corps. Donc aujourd'hui, on est sans armes et donc on fait une lecture qui nous paraît la lecture la plus logique et de dire bah, ce texte, il vise effectivement à créer un Internet neutre du point de vue de la couche Internet vis-à-vis des applications, vis-à-vis des terminaux, mais elle ne crée d'obligation d'ouverture que sur Internet et pas sur le reste. De la même manière qu'elle n'oblige pas un fournisseur de contenu à rendre son service disponible. Toutes les obligations, elles sont sur les acteurs d'Internet. Voilà. Et par ailleurs, cette lecture, elle est... Enfin, je veux dire, quand on a sorti notre rapport sur les terminaux, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit « Mais qu'est-ce qu'ils font, l'ARCEP, là ? Ils ont bu un coup de trop, les terminaux, ils sont pas régulés, c'est le droit de la concurrence qui fait ça. » Donc, voilà, je pense qu'il y a quand même un consensus assez large sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de régulation applicable aux terminaux, et en particulier que le règlement Internet ouvert n'est absolument pas applicable aux terminaux. Mais moi j'aimerais bien, hein. Ça me simplifierait beaucoup de choses. Hein, mais...
C'est plutôt une remarque qu'une question. Sur vos panels issus de Twitter, la représentativité est quand même extrêmement faible, puisqu'il y a entre 35 et une centaine de personnes qui ont répondu. Comment, d'abord, qui sont ces personnes qui ont répondu, enfin, quel est leur profil, et comment vous expliquez que vous ne mobilisiez pas quand même un tout petit peu plus dans un pays de 65 millions d'habitants quand même?
Non, je dirais, faut pas confondre. Je pense, faut pas tout confondre. Quand on fait des tweets comme ça pour poser des questions, bon, c'est un peu pour rigoler, quoi. Je veux dire, voilà. Bon.
D'abord, en plus, c'est très bien d'avoir mis le panel au moins.
En revanche, là où je rejoins votre question, c'est sur la question de j'alerte l'ARCEP. C'est effectivement aujourd'hui, on a un outil sur lequel on invite les utilisateurs, et là qui est vraiment pour le coup un outil grand public qui vise 56 millions, je ne sais plus combien vous avez dit, tous les internautes, quoi, bon, bref, qui auraient des problèmes à nous remonter des difficultés. Donc cet outil, on en est content parce qu'il nous a permis de changer d'échelle par rapport à notre capacité actuelle de recueillir, enfin, une capacité passée de recueillir des plaintes consommateurs. Ça nous permet quand même de passer, en gros, on est à x5, x10. On va voir au bout d'un an exactement ce qu'on a pu toucher. Donc effectivement, on a un outil qui nous permet d'être davantage vers le grand public. Mais ça reste des sujets techniques qui préoccupent pas nécessairement le commun des mortels ou les Français dans leur quotidien. Et même à l'intérieur des sujets qu'on voit remonter à l'intérieur de Jalert-Larcep, on a beaucoup plus de sujets qui sont liés à la fibre, à des gens qui sont en galère, leur accès qui est coupé, ou l'opérateur d'immeuble qui avait dit qu'il allait installer la fibre et qu'il l'a fait pas. Enfin voilà, on est sur des sujets qui sont plus critiques sur les gens, parce qu'en général, la première question, c'est avoir un accès. Donc ça capte pas dans les zones rurales, j'arrive pas à avoir la fibre, mon accès à Internet est coupé, je me suis fait écraser à tort. Et la question de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'accès, assez naturellement, ça vient en deuxième rideau pour les consommateurs. Voilà. Mais après, on peut engager une discussion sur le budget de l'ARCEP et la manière dont il pourrait toucher davantage le grand public, mais je pense qu'on va dépasser le cadre de la discussion.
Est-ce que je peux juste vous demander tout simplement combien vous avez eu de signalements sur ce compte J'alerte l'ARCEP ?
Je n'ai pas le dernier chiffrage. Quelqu'un a le dernier chiffre ou pas ?
À peu près. Dans
le rapport, on a un encart dédié et le chiffre à peu près c'est 22 500 à fin avril, je crois.
Oui, bonjour, Nathalie Chiche. J'ai été rapporteur d'une étude sur la gouvernance d'Internet et notamment sur la neutralité du net. Donc à titre liminaire, je suis pour la neutralité du net, comme tout le monde d'ailleurs. Bon, concernant la neutralité, ma question est sur la neutralité du net. On sait que les États-Unis y ont renoncé, on voit que la Californie revient dessus. En France, j'ai été un petit peu étonnée lors de la communication de Stéphane Richard sur la 5G, sur le lancement de la 5G. Dans la même semaine, il disait qu'il fallait s'attendre à renoncer à la neutralité du net. Et quelque part, il désavouait un petit peu les propos du ministre Mounir Majoubi. Qu'est-ce que, à ce jour, à cette date, où en est notre neutralité du net en France ?
C'est trop beau de me poser cette question. Bon, alors déjà, moi je l'ai dit, j'aimerais que les opérateurs télécoms, ils me parlent de 5G par rapport aux magnifiques innovations que ça va permettre d'apporter à leurs utilisateurs, comment ça va moderniser notre pays, comment ça va être un game changer et comment la France, elle va cartonner sur la 5G. Je pense que moi c'est la première chose que j'attends des opérateurs. Voilà. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'il y a un discours anxiogène qui est véhiculé sur la question de la 5G et de la neutralité du net par beaucoup d'acteurs qui crée un problème qui n'existe pas. C'est un élément sur lequel nous avons un dialogue régulier au niveau du BEREC, donc l'organe des régulateurs européens que je présidais l'année dernière. Donc moi j'avais été furieux parce qu'en 2016, il y avait eu un document qui avait été publié par des acteurs industriels qui s'appelait le 5G Manifesto, qui disait la 5G ça va être super, il y a juste une condition, c'est qu'il faut que le BEREC mette à la poubelle son projet de ligne directrice. Voilà, bon. Donc j'étais furieux parce que on n'en avait jamais discuté, parce que ce sujet n'était jamais apparu. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a maintenu évidemment notre projet de ligne directrice tel quel. Et ensuite, on a dit à un certain nombre d'acteurs, les gars, si vous voulez discuter, venez nous voir. Voilà. Donc ça a pris à peu près 8 mois pour qu'ils viennent finalement nous voir. Donc on a eu une délégation de la GSMA qui est venue au BEREC, rue de la Science à Bruxelles. On a eu une discussion sur le sujet et on leur a dit, nous, les régulateurs, on ne voit pas de difficulté de principe entre la 5G et la neutralité du net. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous pointer des cas spécifiques dans lesquels vous voyez des problèmes ? Ce à quoi les opérateurs nous ont répondu, nous allons y réfléchir. Très bien. Donc ils sont partis y réfléchir et nous nous sommes revus avec la GSMA, à un niveau de représentation encore supérieur, à Barcelone en février dernier. On a re-eu exactement le même début de discussion et les opérateurs nous ont dit « Bah écoutez, finalement, on n'a pas envie de vous donner nos use cases parce que vous allez nous micromanager. » Voilà. Donc la situation, c'est que cet enjeu de la neutralité du net et de la 5G est purement théorique. Aujourd'hui, il n'y a aucune difficulté qui a été portée à notre connaissance. Et moi, le message constant que je donne aux opérateurs français, c'est « allez-y, on verra après ». Notamment tout ce qui est ce qu'on appelle le network slicing, donc c'est-à-dire qui permet de manager des niveaux de qualité de service différents, n'est absolument pas en soi antinomique avec la neutralité du net, puisque nous avons un cadre européen qui encadre la gestion de trafic. On ne fait pas n'importe quoi en matière de gestion de trafic, mais il y a des flexibilités qui existent. S'il s'agit de donner avantage à certains services par rapport à d'autres, c'est non. Mais s'il s'agit de gérer de manière différenciée certaines classes de services, parce que par exemple, quand on a sur un même réseau 5G un service de ville intelligente qui va donner des alertes en cas d'accident et le même réseau 5G qui va permettre au petit à l'arrière de regarder son dessin animé, eh bien oui, il pourra y avoir des classes de services différents entre ces deux services qui répondent à des niveaux de criticité qui sont différents, et on l'a déjà dit aux acteurs. Donc aujourd'hui, moi je crois que ce qu'on attend des opérateurs télécoms sur la 5G, c'est de construire l'avenir et pas de venir en permanence chercher des débats sur la régulation. La régulation, excusez-moi, mais elle a bon dos. Donc je pense que ce qu'on attend sur la 5G, c'est une mobilisation des acteurs sur le terrain, sur l'innovation. Voilà, merci. Merci de votre question.
Bonjour, Sabine Blanc, Contexte. Le président de l'Assemblée nationale avait proposé d'inscrire la neutralité du net dans la Constitution. Ça ne fait pas partie des options retenues à ce stade dans les projets de loi. Est-ce que ça vous semblerait utile ou il n'y en a pas besoin?
Comme je l'ai dit en introduction, hein, nous on veut pas, on veut pas aller au-delà de notre condition. Hein. Nous on fait le gardien et la pédagogie, mais la définition des règles et le niveau auquel elles s'inscrivent, c'est pas notre boulot. Voilà. Ce qui est important pour nous, au premier ordre, c'est la préservation du cadre européen, parce que je pense que vous l'avez senti dans la présentation de Boris, mais tout ce qu'on fait dans la neutralité du net est intimement lié aux travaux du BEREC. On a créé l'année dernière un mode de travail au sein du BEREC qui va bien au-delà de nos obligations légales. Aujourd'hui, quand il y a un cas particulier qui se présente dans un pays, on en discute au sein du groupe de travail. Si c'est un cas relativement important, le responsable de l'institution en question, il vient plancher devant ses pairs en réunion plénière et vient expliquer son cas. Et je peux vous dire que ça crée une discipline qui est très efficace. Je ne vais pas rentrer dans les anecdotes. Nous, on tient à ce cadre européen parce que, premièrement, on veut construire ce qu'est la neutralité du net entre régulateurs européens, parce que c'est des sujets compliqués, c'est des sujets sur lesquels on veut une vision harmonisée. Et deuxièmement, on a un cadre européen qui est un règlement, qui est un niveau de protection qui est très élevé. Le sujet de la neutralité du net aux États-Unis, moi, comme j'aime à le dire de manière un petit peu, pour titiller un petit peu mes collègues, c'est que les États-Unis, c'est le roi des essuie-glaces. C'est que un coup, il y a de la neutralité du net, puis deux ou trois ans après, il n'y en a plus, puis ça revient. Voilà. Et donc, moi, je vous parie que dans deux ou trois ans, la neutralité du net, elle est réinstallée aux États-Unis. Enfin, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, sous une forme ou sur une autre. Le sujet aujourd'hui, c'est avant tout d'avoir une stabilité, d'avoir un cadre qui soit stable et prévisible, et le cadre européen, il donne ça. Parce que revenir sur un règlement, c'est quand même un truc compliqué. Et donc pour nous, la priorité, c'est d'abord que l'année prochaine, la Commission européenne confirme sa volonté de maintenir, peut-être le compléter, le cas échéant, pourquoi pas sur les terminaux ou autre chose, mais de maintenir au moins le cadre de la neutralité du net comme étant un élément de stabilité à l'intérieur du cadre européen. C'est vraiment ça, nous, notre priorité, c'est que le cadre de travail et le cadre juridique dans lequel on travaille, qui est celui du cadre européen, il soit maintenu et il soit confirmé l'année prochaine. Et donc ce rapport du BEREC, qu'on va donner en fin d'année comme une contribution à cette clause de révision, pour nous, il est très important. Je suis désolé parce que ma réponse était un petit peu longue. Sur la Constitution, comment vous dire? Pour nous, je laisserai Serge Habitboul compléter le cas échéant. Pour nous, évidemment, c'est un super signal. Quand on nous dit la neutralité du net, en plus d'être dans le cadre européen, elle pourrait être dans la Constitution. Évidemment, c'est très positif. Maintenant, voilà, c'est vraiment des choix politiques qui nous dépassent. On est au début d'un processus. Voilà, on verra ce qu'il en sort. Tu veux compléter, Serge?
Oui, ou peut-être juste un mot pour dire, pour répéter un peu ce que tu as dit. Il n'y a pas véritablement nécessité dans la Constitution aujourd'hui d'avoir la neutralité du net. Par contre, il y a bien d'autres problèmes de neutralité qui se posent et qui pourraient, eux, rentrer dans la Constitution, mais ce n'est pas, encore une fois, le travail de l'ARCEP.
Magnifique. Bon, merci beaucoup. Vous avez posé, quelqu'un a posé une question. Est-ce que l'Internet est neutre en France? Oui, vous avez posé cette question, j'ai pas vraiment répondu. Donc, peut-être que nos messages sont un peu sophistiqués, mais en gros, ça va. En gros, ça va sur la question de la neutralité du net. On a vu des petits sujets, hein, ça a été mentionné notamment sur la question de certains blocages qui étaient dans les terminaux, sur le mode modem ou sur d'autres dispositifs sur lesquels il y avait un certain nombre de blocages. On les a débloqués, mais aujourd'hui, je dirais que il y a que des petits cailloux sur notre route. Je suis désolé, je sors de la métaphore médicale. Des petits cailloux, enfin bref. Et que pour l'instant, par le dialogue, en fait, on arrive à résoudre les problèmes. C'est-à-dire que l'outil de monitoring, ce rapport qu'on publie chaque année, toute la pression extérieure qu'il y a sur le système et l'existence du règlement et de toute la procédure de sanction est suffisamment dissuasif pour qu'on arrive à résoudre les problèmes par le dialogue. Donc aujourd'hui, nous, on est assez positif. On dit pas que c'est parfait. Il y a certainement encore des choses à faire. Mais quand on regarde la hiérarchie des sujets, la neutralité du net en elle-même, on est plutôt positif. Voilà notre message du jour, c'est de dire qu'il y a un gros boulot à faire sur les outils de mesure, où là, la situation n'est pas satisfaisante. Je pense que sur IPv6, la discussion montre quand même qu'il y a encore beaucoup à faire. Et on est toujours dans cette projection de ne pas se contenter uniquement de la neutralité du net, qui est une vision tuyau, mais de regarder au-delà des tuyaux, et donc d'aller vers notamment les robinets qui sont les terminaux. Voilà. Donc, si je devais résumer notre rapport, voilà. S'il n'y a plus de questions, Non, c'est bon. Il me reste à remercier l'équipe, et puis je te laisse donner les housekeeping informations sur la suite des opérations.
Oui, merci beaucoup. En deux mots, comme indiqué tout à l'heure, l'ARCEP ouvre maintenant le capot, encore davantage, si j'ose dire. Donc vous pouvez aller auprès de tous les experts. Donc il y aura Arnaud et Pierre pour la qualité de service Internet fixe et mobile vers là-bas. Hélène et Boris pour la neutralité du net et d'ouverture des terminaux ici. Et Samy et Vivien pour des sujets d'interconnexion de données et d'IPv6 là-bas. Merci.